Moi, c'est Marion.
Et moi, c'est Louise.
Bienvenue dans C'est pas sorcière.
Le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie.
Et les pratiques ésotériques.
Sauf aujourd'hui.
T'es surprise.
Comme nous sommes toutes les deux en vacances, enfin, comme nous étions en vacances ce mois-ci, nous avons décidé de faire un épisode plus léger qui nous demandait moins de temps de préparation. Et donc aujourd'hui, on vous emmène dans nos bibliothèques.
Oui, des livres. On va vous raconter un petit peu quel livre nous inspire quand on vous fait des chroniques. Bien sûr, on n'aura pas chacune les mêmes livres, mais il y en a quelques-uns qu'on a en commun.
Voilà, c'est tous des livres, évidemment, qui tournent autour de la sorcellerie. On a essayé de les classer en différentes catégories. Comme ça, vous pourrez retrouver selon vos intérêts. Par exemple, on a des livres plutôt de recherche ou des essais autour de la sorcellerie. Il y aura des livres de fiction dans lesquels il y a des personnages qui sont des sorcières ou qui tournent carrément le personnage principal autour d'une sorcière. Marion a plein de livres pratiques à vous proposer. Moi, j'en ai aucun, donc ça sera sa section à elle.
Ce sera la liste de rentrée quand tu vas à Poudlard. Tu dois aller chez Fleury et Bottes.
Ah, trop bien. Et du coup, tu réussiras peut-être à me convaincre d'aller en acheter certains.
Mm-hmm. J'ai hâte.
Et puis, on terminera en toute fin avec des livres de jeunesse. On s'est dit que si vous aimez bien lire les livres jeunesse ou si vous avez des jeunes enfants autour de vous à qui vous aimez faire des cadeaux et que vous voulez influencer avec des histoires de sorcières, on en a quelques-uns pour vous. Et évidemment, ça sera nos impressions personnelles sur les livres. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit sur les livres ou s'il y a des livres dont on n'a pas parlé qui vous semblent indispensables et qu'on devrait rajouter à nos bibliothèques.
Mais oui, donnez-nous des recommandations de livres. On est toujours preneuses.
Nous sommes des personnes qui passons nos vies dans les librairies et à contempler nos propres livres. Alors, n'hésitez pas, ça vous fera plaisir.
Ou sur des sites d'occasion obscurs.
Du coup, c'est parti. On commence par le dur.
On rentre dans le dur du sujet.
Alors, on va commencer par la catégorie effet bruitage. Première catégorie. La catégorie essai et recherche.
C'est la catégorie cerdée.
Du coup, en premier dans la liste, on a mis un livre que tout le monde cite quand on parle de livres autour de la sorcellerie. C'est le livre de Mona Chollet, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Moi, je l'ai lu en e-book. Toi, tu l'as en papier, je crois.
Oui, il est un petit peu, gondolé parce qu'il a vécu plein de choses.
Tu l'as prêté à beaucoup de gens.
Oui, en plus, je l'ai prêté.
Comment on explique ce livre ?
C'est une journaliste, Mona Chollet, qui a fait un essai sur la figure de la sorcière avec le prisme du féminisme. En gros.
C'est bien résumé, ouais. On n'a pas eu tout à fait les mêmes opinions sur ce livre.
Ouais, vas-y, raconte.
Alors moi, je suis un peu réservée sur ce livre, déjà parce que je lis pas beaucoup d'essais, je lis plutôt des recherches, et du coup, ça m'avait déstabilisée de voir qu'on pouvait porter des conclusions à partir d'exemples, alors qu'en recherche, c'est pas ça du tout, il faut qu'il y ait un certain nombre de pourcentages de personnes qui prouvent que le phénomène est... et du coup, je disais, ah, mais c'est pas bien. Mais tout le monde me disait, mais non, c'est parce que c'est un essai, c'est pas de la recherche. Tu ne peux pas lui reprocher de ne pas être de la recherche puisqu'elle ne se défend pas comme un livre
en fait,
de recherche.
C'est vraiment... elle donne son avis, quoi. C'est un peu comme si elle avait fait un long article sur ce sujet.
C'est ça, voilà. Et le fait que, du coup, j'avais pas la bonne posture en le lisant, ça m'avait vachement déstabilisée.
Mmh.
Et il y avait aussi une autre chose qui m'avait déstabilisée, c'est que j'avais trouvé qu'elle réinterprétait un peu l'histoire en fonction... En fait, elle regardait l'histoire avec son œil féministe actuel. Et du coup, elle interprétait l'histoire avec cet œil-là moderne. Sauf que bah non, c'est pas possible. Quand on analyse l'histoire, il faut la regarder en fonction du contexte de l'époque donnée. Parce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes conclusions qu'on poserait à l'événement s'il subvenait aujourd'hui.
Oui, c'est sûr, mais c'est normal qu'elle fasse ça, parce que c'est le but, en fait. Le but, c'est son interprétation.
Ouais, mais du coup, ça fait qu'elle elle interprétait faussement des choses. Enfin, j'ai regardé beaucoup de conférences sur la sorcellerie faites par des historiens, et disent que ce livre a fait beaucoup de mal à l'histoire,
Oh
parce
non.
que à l'histoire de la sorcellerie, parce que elle parle de choses qui ne se sont pas passées, en fait, parce qu'elle fait des mauvaises interprétations. Et que du coup, ça pose un problème de posture de ce côté-là, quoi.
Après, peut-être qu'au contraire, ça a peut-être poussé des gens qui s'y connaissaient pas du tout à aller faire leurs propres recherches et à s'intéresser à, par exemple, la bibliographie qu'elle avait mise ou
Ouais.
justement à aller chercher plus loin dans l'histoire.
Ouais, carrément. C'est un truc. C'est pour ça que je voulais lire ce livre. C'est parce que il a vraiment eu un énorme impact en France, dans les milieux féministes, mais même un peu
Oui,
plus
même
loin,
ailleurs.
sur la figure de la sorcière et comment elle est réinterprétée aujourd'hui et comment elle est appropriée par le féminisme. Et du coup, c'est pour ça que je voulais le lire, parce que c'est vraiment un ouvrage majeur dans ce mouvement-là.
Bah, je suis d'accord avec toi. Et personnellement, j'ai lu un autre livre de Mona Chollet, qui est aussi féministe, qui s'appelle Beauté fatale. Et bon, bah, on parle plus du tout de sorcière, quoique, un petit peu quand même, parce qu'on parle du corps des femmes et de l'image de la beauté. Et je l'ai adoré, en fait. Donc peut-être que si jamais vous avez lu Sorcière et que vous n'avez pas tellement aimé, parce que peut-être que comme vous y connaissez vachement, vous étiez tatillon, et je conseille vraiment de lire Beauté fatale pour le coup.
Ok. Eh ben, c'était le premier. Je pense que ce ne sera pas une découverte pour beaucoup de gens. Mais du coup,
Ouais.
je serais curieuse d'avoir l'avis d'autres personnes, voir si ce livre a révolutionné leur vision de la figure de la sorcière, ou si au contraire,
Ouais, dites-nous.
ils étaient comme moi un peu perturbés par ce livre. Mais c'est bien d'être perturbé par un livre.
Après, révolutionner la vision de la figure de la sorcière, je pense que c'est peut-être pour notre génération à nous, en fait, il y a beaucoup de choses qu'elle dit qui sont déjà acquises, en fait, parce que on a baigné là-dedans dans cette pop culture-là qui nous rend les sorcières vachement cool et qui sont vachement pleines de pouvoir et de badassitude.
Et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition avec le prochain livre de la liste que j'ai lu il y a un petit moment maintenant, entre autres à cause de ce livre de Mona Chollet, parce qu'elle le cite plusieurs fois dedans.
Ouais, c'est
C'est le
vrai.
livre La sorcière de Jules Michelet, qui est un livre, je pense, si vous lisez n'importe quel essai ou recherche sur la sorcellerie, il sera cité dedans, parce que c'est un livre qui a eu un impact majeur sur la figure de la sorcellerie, puisque il date de... Attendez, je cherche dans ma mémoire. Il date de 1862, que je savais ça par cœur.
Ah, c'est la date de naissance de ma maman.
Vous pouvez toujours le trouver, moi j'ai aux éditions Folio Classique, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres éditions qui l'ont publié également. Et attends, tu viens de dire que ta nounou, elle était née en 1862.
Non, ma maman. Ah, 1800! Ah non! J'ai compris 1900. Ok, j'ai compris.
Donc non, bien 1862. Et c'est un ouvrage qui a eu un énorme impact, parce que en fait, Jules Michelet, c'est un historien qui a du coup repris la figure de la sorcière et qui l'a défendue. Et ça a été un basculement dans l'histoire de la figure de la sorcière comme étant le personnage entraîné par Satan, au personnage qui est victime, en fait. Et qui correspond à l'image de la sorcière qu'on a beaucoup aujourd'hui. Par exemple, c'est à cause de Jules Michelet que tout le monde croit que les procès de sorcellerie, c'était au Moyen Âge, alors
D'accord.
que c'était à la Renaissance. Parce qu'en fait, Jules Michelet est historien, mais il est historien dans les années 1862. Et du coup, on n'a pas la même rigueur qu'on a aujourd'hui au niveau de l'histoire. Et donc, dans ses sources qu'il a utilisées, il a utilisé une histoire complètement de fiction qui avait été inventée par quelqu'un qui disait qu'il y avait déjà des histoires de sabbat de sorcières au Moyen-Âge, alors que il avait complètement inventé l'histoire bien après. Et donc, Jules Michelet réutilise ça en disant « Voilà ce qui s'était passé dès le Moyen-Âge ». Et en fait, c'est pas vrai.
En plus, c'était très très en vogue le Moyen Âge. Enfin, c'est toujours très en vogue, mais
Ouais.
Il y avait plein de fantasmes autour de cette période-là.
Ouais. Et bah, en fait, le Moyen Âge, il a cristallisé la figure, enfin, tous les éléments qu'on reproche à la sorcière, ça vient du Moyen Âge. Toutes les
Ouais.
croyances, les choses comme ça. Mais la vraie chasse aux sorcières, c'était au début de la Renaissance.
Eh oui, c'était bien plus tard, c'était il n'y a pas très longtemps.
Et du coup, ce livre, il fait partie de, bah, de tout ce mouvement qui va remettre en avant la figure de la sorcière, et jusqu'à aujourd'hui où cette figure est réinterprétée par les féministes. Et c'est un ouvrage, bah, je vous le conseille pas forcément à lire parce que c'est pas très facile à lire. C'était franchement pas la lecture la plus fun de ma vie, même si c'est un ouvrage important pour la figure de la sorcière. Et peut-être qu'un jour je ferai une chronique spécialement sur cette histoire, sur cet ouvrage et tous les préjugés qu'on a sur l'histoire de la sorcière
Ah
qui
ouais.
viennent de ce bouquin et qui en fait sont complètement faux parce qu'il n'a pas bien fait ses recherches.
Ce serait cool, moi je veux bien cette chronique parce que j'ai beaucoup entendu parler de ce livre, mais j'en sais pas grand-chose et honnêtement, je sais pas trop si je vais le lire. Donc comme
Et
ça,
ben.
peut-être que je me déciderai en t'écoutant.
D'accord, bah, la pression du coup.
Alors, on revient dans le féminisme. C'est à mon tour. Moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le guide pratique du féminisme divinatoire. C'est écrit par Camille Dussollier et j'ai jamais lu un livre qui a cette forme-là parce que ça s'appelle Le guide pratique du féminisme divinatoire, mais c'est entre le manifeste féministe et le guide en fait. C'est-à-dire que à chaque chapitre, elle va parler d'un aspect du féminisme et elle va faire des parallèles avec une pratique divinatoire, ça va être bah, par exemple voilà la divination par exemple, et en même temps elle va faire une sorte de petit tuto et du coup c'est assez déroutant je trouve, et je pense pas que ça puisse convenir à tout le monde comme genre de lecture, et c'est par contre c'est assez rafraîchissant parce que en même temps c'est du féminisme, en même temps il y a de la magie, en même temps c'est drôle parce qu'il fait des petites blagues, il fait des jeux de mots, donc moi, j'ai bien aimé, mais ouais, je le conseillerais pas forcément à tout le monde, parce que déjà, je pense pas que ça s'adresse à tout le monde, pour tout ce qui est écriture d'essais féministes, mais ça peut être rigolo pour celles qui, je sais pas, soit qui s'intéressent aux pratiques divinatoires et qui ont envie de le voir sous un prisme féministe, soit qui s'intéressent au féminisme et qui ont envie de twister un peu leur lecture. Et d'ailleurs Camille Dussollier, à la base c'est une vidéaste je crois. Elle a fait un documentaire qui a été diffusé sur France TV Slash en plusieurs parties qui s'appelle Sorcière Lisa, qui se concentre sur une femme qui s'appelle Lisa. Et elle avait fait plusieurs autres documentaires, notamment un film qui s'appelle Sorcière Mes Sœurs que j'ai toujours pas vu parce qu'il faut que j'achète le DVD. Puisqu'il existe qu'en DVD. Donc voilà. J'ai aussi vu une conférence d'elle, donc je trouvais ça assez intéressant. Elle essaye en fait de trouver des nouvelles manières pour parler du féminisme et de la sorcellerie. Par exemple, elle avait fait un site, donc il faudrait que je retrouve le nom. Mais en gros, c'était comme une petite aventure avec des vidéos où tu choisissais ton parcours et il y avait plein de petits bouts de documentaires et en même temps elle te faisait des lectures des cartes. C'était rigolo.
Ah ouais, ça doit être fun.
À toi. On dirait un jeu, j'aime bien.
Alors moi j'enchaîne sur un livre dont j'ai déjà parlé dans des autres épisodes, on en avait parlé toutes les deux. C'est le livre Les sorcières, une histoire de femmes de Céline Duchesnay, qui est tiré de l'émission qu'elle a fait sur France Culture sur la sorcière, donc un reportage en quatre parties. Et c'est un livre qui est publié aux éditions Michel Lafon France Culture. Et c'est un super beau livre, avec plein de belles illustrations, enfin vraiment la mise en page est super jolie. Et donc ça reprend la structure de son émission, c'est-à-dire que ça parle au début de la sorcière dans l'histoire, ensuite ça parle des figures de la sorcière, et ça termine sur la réappropriation de la figure de la sorcière actuellement. Et c'est vraiment super bien fait, elle a vraiment fait un travail de recherche impressionnant. Et ce que j'ai trouvé le plus admirable dans son livre, c'est qu'elle ne porte aucun jugement sur ce dont elle parle. Par exemple, il y a tout un passage où elle interviewe une dame qui se revendique sorcière et qui raconte que depuis toute petite, elle a des expériences mystiques et tout. Et elle ne juge pas cette personne, alors que moi, clairement, en lisant, j'étais là, n'importe quoi, elle parle avec les animaux, ha. Et elle le fait vraiment de manière très détachée pour vraiment montrer tous les aspects de la sorcière, et c'est vraiment un super super travail. Et j'ai beaucoup aimé, c'est un très beau livre. Alors, comme c'est un beau livre, c'est un peu plus cher qu'un livre normal, mais ça, je trouve que ça vaut vraiment l'achat.
Mais j'ai hésité plusieurs fois quand je l'ai vu en librairie parce que j'avais écouté le podcast aussi.
Ouais.
Et je me suis dit, Marion, ça suffit, arrête d'acheter des trucs que t'as déjà soit lu, soit entendu. Du coup, je pense que peut-être je craquerai si je le trouve d'occasion, notamment. Mais pour l'instant, je vais essayer déjà de lire ce que j'ai du mal à lire. J'en profite pour faire une transition sur le fait que Louise est une bonne élève qui lit les livres qu'elle a chez elle. Et moi, je suis
Oui.
une personne qui a un problème d'accumulation et qui suis en fait persuadée que je vais lire ce livre à ce moment de ma vie parce que j'en ai trop envie, mais en fait 2 jours après, j'ai trop envie d'en lire un autre. Et du coup, en fait, j'en commence plusieurs, je n'en finis pas et c'est un enfer. Donc, j'ai décidé de quand même vous dire quelques mots des livres que je n'ai pas encore lus ou que j'ai lus un petit peu.
Mais au moins c'est bien parce que tu dis que tu n'as pas, que tu
Oui,
mets
et
des
puis je me dis
pincettes.
qu'il y aura peut-être certaines d'entre vous ou certains d'entre vous qui seront dans mon cas, qui se diront « Ah, je ne suis pas seule! Je ne suis
C'est
pas une mauvaise personne!
pas être une mauvaise personne. C'est juste que moi j'ai des tocs que tu n'as pas.
» Non, j'en ai d'autres.
Chacun ses tocs.
Mais le concept de pile à lire, c'est...
Ah, moi, ça m'angoisse d'avoir plein de
Ça...
livres que je n'ai pas lus.
Moi, c'est une bibliothèque à lire. À lire. Bref, du coup,
Et
le
donc,
premier
justement,
livre que
parle-nous
je
du
n'ai pas
prochain.
lu, ça s'appelle. C'est un livre qui est en format poche, donc je pense qu'on peut le trouver chez plein d'éditions. Ça s'appelle Chaman, guérisseur et médium de Jean-Dominique Michel. Et j'avais un peu feuilleté à l'époque. Je pense que je l'avais trouvé chez un bouquiniste, honnêtement, parce que je me rappelle pas l'avoir acheté. Et ouais, ça explique en fait ma plein de pratiques qui se font toujours de, par exemple, je sais pas, ça peut être des magnétiseurs, des coupeurs de feu, des gens qui vont venir chez les personnes qui se disent hantées pour trouver la source, etc. Et ça a l'air d'être plutôt neutre comme point de vue, donc moi ça m'intéressait. En plus c'est beaucoup de petits chapitres, c'est pas, je pense pas que ce soit que ça aille vraiment dans le fond, mais c'est plutôt comme une sorte de catalogue de plein de pratiques qui existent, donc ça m'intéressait.
Et c'est des pratiques dans le monde ou c'est en Europe?
Il me semble que c'est plutôt en France, je crois. Bon après ça commence par chaman, donc je sais qu'il y a des chamans en France, mais je ne sais pas. Il est dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu.
Mais bientôt, bientôt.
Bad lectrice.
Mais non, il n'y a pas de honte. Moi, j'ai un autre problème aussi, c'est que du coup, je lis beaucoup de livres et des fois, je les ai lus il y a longtemps, donc je m'en souviens plus hyper bien.
Du coup, il faut les relire.
Voilà, c'est un cercle infini. Le prochain, donc, c'est encore un essai qui s'appelle Sorcière, le sombre grimoire du féminin, qui est un livre de Julie Proust Tanguy, qui est publié aux éditions Helios, et je l'ai découvert en me rendant aux Imaginales, qui est un salon autour des cultures de l'imaginaire qui a lieu chaque année à Épinal. Et il y a une grande tente réservée aux livres. Et il y avait un stand de cette maison d'édition. Et je regardais comme ça, et la dame, elle m'expliquait ce qu'ils avaient comme livre et tout. Et elle me dit, ah, sinon, on a aussi un essai sur la figure de la sorcière à travers les âges et tout. Oh, ok, prends mon argent, j'ai compris.
Oui, sinon on a exactement le livre que vous cherchez depuis le début.
Et donc c'est un petit livre, livre de poche pas très épais, où l'autrice reprend la figure de la sorcière de manière chronologique, donc de l'Antiquité à nos jours. Ça, du coup, ça, à l'Antiquité, c'est plus la figure de la magicienne jusqu'à la figure de la sorcière aujourd'hui. Je me rappelle qu'en le lisant, j'avais eu le sentiment que c'était un peu une liste de toutes les figures qui existent dans les médias ou les choses comme ça. C'était pas forcément le truc le plus agréable à lire. Mais comme je me souvenais pas très bien, je suis allée faire un tour sur Internet et j'ai vu plein de commentaires disant que c'était génial et hyper bien écrit. Alors peut-être que je l'ai lu à un moment où j'étais juste pas concentrée dessus. Et du coup, c'est un peu voilà, dans la même veine que d'autres essais dont on vient vous parler et qui reprennent vraiment l'histoire de la figure de la sorcière. Et comme c'était un petit livre à pas très cher, c'est cool de l'avoir dans sa bibliothèque si on s'intéresse sur le sujet.
Je note.
Voilà.
Pour mon prochain achat compulsif.
En plus, la couverture est très jolie. C'est aussi un des arguments qui m'a fait l'acheter. J'ai le cœur faible pour les beaux livres.
Je comprends. Je suis aussi l'esclave des avances. Bah pour le coup, en parlant de livres qui fait un peu liste, le prochain, que je n'ai pas encore vu non plus, ça s'appelle « Le chat, légendes, mythes et pouvoirs magiques » de Christian Domergue, et on me l'a offert à Noël, je ne l'ai pas encore lu. C'est un livre de poche, et il est très gros, c'est un pavé. Il est plutôt joli aussi pour un livre de poche, il est tout noir, et puis au-dessus il y a un œil de chat. Et en gros, c'est un petit peu, ça fait un petit peu le catalogue de toutes les légendes et en tout cas les préjugés qu'on peut accorder aux chats. Pas forcément les chats noirs d'ailleurs.
Les
chats ont pas toujours eu une super réputation, les pauvres. En tout cas pas comme aujourd'hui. Et du coup, en fait, tu vas avoir différentes légendes selon les pays. Et ensuite, tu vas même avoir toute une liste de petites histoires associées aux mythes et au prétendu pouvoir des chats selon les départements et les régions de France.
Ah, c'est sympa.
Ça a l'air trop trop cool. J'ai la manie, en fait, l'habitude de prendre des fois des livres et d'en lire des petits bouts au hasard. Et franchement, c'est très rigolo.
Ouais.
J'ai hâte de le lire.
Moi, j'appelle ça des livres de toilette, les livres que tu peux lire un petit bout.
Oui, exactement. T'as tout compris. Sinon, je pouvais avoir une étagère dans mes toilettes. Comment il y aurait plein de livres dessus.
Ok, et du coup, c'est pas forcément autour de la sorcière, même s'il y a un lien entre le chat et la figure de la sorcière.
Non, c'est pas forcément autour de la sorcière. C'est plus un petit peu magique, mystico, félin.
Ok, d'accord, je note, tu triches, tu rajoutes des livres en plus.
Mm-hmm. Eh ouais. C'est mon petit côté serpentard.
Moi, j'ai dû me limiter dans la fiction, éliminer tous les livres où il y avait de la magie, mais qui n'étaient pas des livres où il y avait des sorcières, parce que sinon, ma liste aurait été deux fois plus grande.
D'ailleurs, je pense que le jour où on fera un épisode qui parlera des animaux dans la sorcellerie, il faudra que je
ça serait lise dommage avec attention. De ne pas le lire.
J'aurai une super source avec plein d'anecdotes.
Très bien. Bah, moi, je vais finir cette partie sur les essais et les recherches avec un combo de deux ouvrages qui, je pense, sont complémentaires. Le premier, ça va être « Sorcières, de Circé aux sorcières de Solheim », qui est un livre de Alix Paré, paru aux éditions Chêne dans la collection « Ça, c'est de l'art ». Et le deuxième, c'est un magazine, le magazine « Dossier de l'art », le numéro 280, que j'ai acheté sur le site directement de « Dossier de l'art », et qui s'appelle « Sorcières, leur représentation de l'Antiquité à nos jours ». Et ces deux ouvrages portent sur c'est l'histoire de l'art, en fait. Et du coup, c'est la figure de la sorcière dans l'histoire de l'art. Et je les ai mis en complémentaire.
Ça a l'air vraiment trop bien.
Je les ai mis en complémentaire justement parce que j'ai trouvé que les deux étaient très bien. Mais j'ai trouvé que le magazine était parfois un peu compliqué. Ça s'adresse vraiment, c'est un magazine d'histoire de l'art, donc ça s'adresse à des gens qui sont passionnés par l'histoire de l'art. Et je trouvais que des fois, leur manière de rédiger était un peu compliquée à lire. Et à l'inverse, le livre Sorcières de Circé aux sorcières de Salem, C'est un super beau livre. Enfin, franchement, la qualité, en plus, il n'est pas très cher et la qualité d'impression est vraiment très jolie, très impressionnante. Par contre, les informations qui sont dedans, je les trouve très simplistes. C'est bon, c'est vraiment le livre à regarder, quoi. C'est pas le livre dans lequel tu vas tirer des informations complètes, des petites anecdotes dont tu te douterais pas. Il y a des fois où ils ont carrément une page avec genre les attributs de la sorcière, le chat noir, le balai, le machin. Enfin, j'ai pas expliqué au moins l'origine du truc. C'est un peu minimum. Et du coup, j'ai lu les deux à la suite. Et du coup, je me suis dit qu'il faudrait réussir à faire un mix. Du coup, ça termine cette partie sur les essais et recherches. Je sais, moi, je trouve qu'il me manque dans ma vie un bon livre d'histoire sur la figure de la sorcière. Je suis encore dans la recherche de cet ouvrage. J'en ai déjà repéré quelques-uns qui seront peut-être enfin le livre que je recherche. Passons à des livres un peu plus faciles à lire. Passons à la fiction.
Passons à des histoires.
Raconte-nous une histoire.
Alors, le premier dont je vais vous parler, moi, c'est La Petite Fadette de George Sand, que certainement, peut-être plusieurs d'entre vous ont déjà lu à l'école, parce que je sais qu'il était pas mal
Vu l'adaptation.
étudié. Oh, j'ai même pas vu l'adaptation du film. Pour le coup, moi, c'était ma mère qui m'avait offert ce livre quand j'étais petite, et j'ai mis 15 ans à le lire, je crois. Parce que, ben, voilà, c'est George Sand, c'est un livre écrit au 19e siècle, et que, bon, quand j'étais petite, clairement, ça me gonflait. Donc, je ne l'ai lu que plutôt récemment, et j'ai beaucoup aimé, parce que, bon,
Alors,
déjà,
j'ai
George
aucun
Sand.
souvenir. Moi, je viens de vérifier, c'est un téléfilm et j'ai aucun souvenir qu'il y avait des histoires de sorcières.
Alors, c'est pas qu'il y a des histoires de sorcières, en fait, c'est que une fadette, c'est une fille de sorcière, entre guillemets, et que cette fameuse petite fadette, en fait, c'est la fille de un peu la sorcière du village, mais pas la. C'est la sorcière du village qui rend service et à qui on va demander conseil, et en même temps qu'on méprise et qui reste dans son coin de la forêt, etc. Donc, cette petite fadette, elle a en même temps un statut de petite fille un peu méprisée parce que bah elle est pauvre, elle gambade dans la campagne, pieds nus, pas du tout comme une jeune fille bien élevée avec un chapeau sur la tête, etc. Et en même temps, elle est quand même relativement libre justement de toutes ces contraintes-là. Et du coup, elle agit un petit peu comme une espèce de petit lutin espiègle. Et c'est une figure en fait très très légère, douce et bucolique de la figure de la sorcière quand elle parle de sa mère, etc. Du rôle qu'elle a dans son village. Donc voilà, moi je le recommande pour les gens qui aiment bien les livres qui parlent de gens de la campagne dont les autres livres ne parlent pas tout le temps. Mais c'est globalement une histoire, c'est une histoire d'amour champêtre, donc ne vous attendez pas à un truc de ouf.
Amour champêtre.
Il y a du foin et tout.
Ça me fait une belle transition que tu disais des gens dont on parle pas souvent pour mon prochain livre, puisque c'est encore une fois un livre que j'ai découvert aux Imaginales, donc encore une fois dans ce salon qui a un grand stand sur la littérature de l'imaginaire. C'est un livre qui s'appelle Qui a peur de la mort de l'autrice Neddy Okorafor, pardon, publié aux éditions Actu Science-Fiction. Et c'est un livre qui m'avait interpellée parce que c'est une histoire de sorcière mais qui se passe en Afrique. Et c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de lire parce que la plupart des histoires de sorcières que je trouve dans les livres, c'est plutôt des trucs occidentaux. Et donc ça m'avait interpellée par ça, je me suis dit, ah c'est cool, ça va ouvrir mes horizons. Et c'est un énorme bouquin, il doit y avoir 600 pages, mais du coup ça fait un gros pavé. Du coup, pour me le dédicacer, elle a fait des motifs sur la tranche du livre, c'est super joli.
Ah, trop beau.
Et donc ce livre, ça se passe au Soudan, mais dans un Soudan du futur. ça suit l'histoire d'une jeune fille qui est née d'un viol de guerre et qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs et qu'elle a des talents de sorcellerie. Sauf que personne ne veut lui apprendre à utiliser ses talents parce que la magie, c'est pas pour les femmes. Et du coup, elle va essayer d'apprendre elle-même la magie, maîtriser ses pouvoirs. Et elle va évoluer dans ce pays en guerre où il y a beaucoup de violence et essayer de... Bah, à la fois d'essayer de ramener un peu de paix, mais aussi des fois d'être confrontée à cette violence et d'être elle-même dans des situations où elle a envie d'utiliser la violence, parce qu'il y a vraiment des situations horribles quand on est en période de guerre. Et c'est vraiment une très belle histoire. L'autrice a reçu, je ne sais plus, plein de prix pour ce livre. J'ai trouvé ça super intéressant d'avoir de nouvelles manières d'écrire la magie, des choses dans lesquelles j'étais pas habituée. Et c'est un livre que je recommande pleinement.
En plus, de la magie dans le futur, je crois que j'ai jamais entendu une histoire comme ça.
Bah, c'est genre le futur, mais genre si tu sais pas que c'est le futur, tu t'en rends pas compte, hein, parce que...
Un futur proche.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste pour dire qu'elle a utilisé... Je pense que c'est pour elle, pour se dédouaner et dire que c'est pas quelque chose d'historique, parce qu'elle utilise quand même beaucoup de trucs autour de la guerre, de choses comme ça.
C'est revient sur le thème qui revient souvent quand les gens parlent de si la magie existait. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais des pouvoirs magiques en temps de guerre, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais elle, en plus, c'est aussi intéressant parce que elle est enfant et elle va grandir là-dedans. Et du coup, il y a ses relations avec ses amis et des choses comme ça. Et j'aime beaucoup aussi ces moments où elle est confrontée au monde, non seulement parce qu'il y a la guerre, mais aussi parce qu'elle découvre des pouvoirs, mais aussi parce que c'est une enfant qui devient une ado, qui devient une adulte.
Elle est confrontée de tous les côtés.
C'est ça. Ah non, mais après, c'est une histoire triste. Hein. Il y a la guerre. Clairement, c'est pas... Enfin, je crois que ça finit bien, je me souviens plus. Mais il y a des passages durs à lire.
Ok, vous êtes prêts.
Ne pas lire si t'es un peu déprimé, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il faudra qu'on mette des petites alertes.
Ouais. Et du coup, trigger warning, il y a des scènes de viol.
D'accord. C'est un bon trigger warning.
Ouais.
Eh bien, je propose qu'on continue dans le trigger warning.
Oui, ce que j'allais dire, exactement ce que j'allais dire.
Avec Carrie de Stephen King. Alors, je sais que peut-être pour certaines personnes, je me suis fait la réflexion, pour certaines personnes, c'est pas un livre qui parle d'une sorcière. Parce que il n'est jamais prononcé le mot sorcière, je crois, dans le livre. On nous dit juste, on sait juste que Carrie, c'est une jeune fille qui a des pouvoirs. Mais pour moi, il n'y a pas de doute, c'est bien une sorcière. Parce que pour moi, quelqu'un qui a des pouvoirs, c'est un sorcier aussi. Donc je sais pas. Bref. pour ceux qui n'auraient pas lu le livre ou qui n'auraient pas vu les adaptations en film. Ça se passe dans une petite ville aux États-Unis, je sais plus dans quel état, mais en gros, Carrie, c'est une jeune fille très très réservée qui vit seule avec sa mère, une mère qui est très très pieuse et qui est très dure avec elle, qui est maltraitante. Et Carrie, en fait, a des super pouvoirs qu'elle essaye de contrôler vaguement et de ne pas laisser sortir. Et le roman commence le jour où elle a ses premières règles, parce qu'en fait, sa mère ne lui a jamais expliqué, et en fait, elle pense qu'elle est en train de mourir, et ça se passe dans les douches du sport au lycée, et tout le monde se moque d'elle et lui envoie des tampons plutôt que de l'aider, à part la prof de sport qui est super. Bref, et je trouve que le livre est très juste pour parler de ce que c'est que d'être adolescent, de ce que c'est que d'être différent, et qu'il utilise en fait un peu les pouvoirs pour exploiter ce domaine-là. Et aussi, pour moi, ça fait penser à la figure de la sorcière, parce que c'est une jeune fille qui accumule beaucoup de colère pendant tout le film, tout le livre, jusqu'à la laisser exploser en fait à la fin sans vouloir trop spoiler. Donc je recommande, ça parle de colère et il y a des scènes de violence et à la fin il y a du sang.
J'ai encore jamais lu de roman de Stephen King parce que j'ai peur d'avoir peur, parce que j'ai une grande imagination.
J'ai peur d'avoir peur. C'est une grande sagesse, Harry, dirait Lupin, d'avoir peur de la peur elle-même.
Exactement. Mais j'ai envie parce qu'il y a plein de gens qui ont des goûts similaires à moi qui aiment bien Stephen King, donc je me dis que ça devrait me plaire. Peut-être que j'ai écouté en plus cet été sur la route des vacances une émission qui parlait de Carrie de Stephen King. Donc peut-être qu'un jour, ça sera mon entrée dans l'univers de Stephen King.
Mais Stephen King, il n'a pas forcément que des livres qui font peur. Il y en a qui font vraiment très peur. Enfin, moi, j'avais eu super peur en lisant Shining quand j'étais ado. Mais par exemple, t'as des livres qui sont plus des thrillers qu'autre chose, comme Misery, que je compte lire sous peu aussi.
D'accord. Alors, quel livre va me traumatiser? Sous quelle forme?
Quel livre pourrait te traumatiser au point que tu aies envie de continuer d'être traumatisé par Stephen King?
C'est ça. Traumatisé, mais pas trop.
Moyen traumatisé.
Bon, on va partir sur du moins traumatisant. Sur du théâtre. Un tout petit livre, parce que le théâtre, c'est jamais très gros, qui s'appelle Les Sorcières de Salem, ou en anglais The Crucible, qui est une pièce de théâtre d'Arthur Miller, qui est un auteur de théâtre. La pièce date de 1953, qui a eu un gros succès aux États-Unis, c'est un petit peu moins connu en France. Et c'est donc une pièce de théâtre qui reprend l'histoire des procès de Salem et de toute l'histoire qui s'est passée à Salem. Et utilise du coup les personnes qui ont été impliquées dans cette histoire pour nous faire rentrer dedans et nous prendre dans les émotions à tout ce qui s'est passé. Et c'est vraiment une pièce de théâtre d'une très grande qualité, notamment du fait que c'est extrêmement précis au niveau de l'histoire. Il précise bien, je ne sais plus si au début ou à la fin de la pièce, quels éléments il a inventés. En particulier, en fait, c'est juste les relations entre les personnages pour pouvoir écrire une histoire que les gens ont envie de suivre, quoi. Et quels sont les faits réels, les choses qui se sont vraiment passées. Et c'est vraiment très bien fait d'un point de vue historique. Et donc, du coup, ça reprend donc l'histoire des accusations sur les sorcières de Salem, en prenant du coup le fait que ça serait. Ça c'est vrai au niveau historique, que c'est parti d'enfants, en particulier la fille du pasteur de la ville de Salem et sa cousine qui vivait avec elle, qui ont commencé à accuser leur servante de sorcellerie, et on en parlera juste après. Et fur et à mesure, on commençait à accuser toutes les femmes du village et même certains hommes de sorcellerie. En fait, ce qu'il a rajouté dans la fiction, c'est que la nièce du coup du pasteur qui a commencé à faire ces accusations, elle aurait été amoureuse d'un des villageois chez qui elle a travaillé, qui est un fermier. Et comme il l'a rejetée, même s'il a eu une brève liaison avec elle et qu'il s'en veut, elle veut continuer d'avoir cette liaison, mais lui, il dit que non, c'est pas bien. Et du coup, pour se venger, elle va commencer à accuser n'importe qui dans la ville, pour notamment la femme de ce monsieur, pour être débarrassée d'elle. Elle va accuser sa servante parce que quand ça commence à être à se pointer vers elle, elle va préférer accuser la servante pour détourner et se faire passer pour victime. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que dans l'histoire, on ne sait pas vraiment pourquoi elles se sont mises à accuser tout le monde et pourquoi certaines personnes ont été... Enfin, quelles sont les vraies raisons pour lesquelles certaines personnes ont été accusées. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir comme si on était dans la ville de Salem. Et enfin, c'est vraiment une pièce de théâtre très courte que j'ai adorée et qui montre bien le caractère complètement absurde de ces accusations. Donc, grosse recommandation, gros coup de cœur, si vous aimez lire le théâtre.
Je note parce que j'avais déjà entendu parler de cette histoire. Mais le lire en pièce de théâtre, ça donne trop envie, en fait. Ça donne envie de le voir aussi, en pièce de théâtre.
Fun fact, il y a eu une adaptation en France avec Yves Montand et Simone Signoret.
Hein ? Attends.
Ouais. Il y a dans l'édition que j'ai acheté l'édition anglaise, et il y a des photos de cette pièce de théâtre avec Yves Montand et Simone Signoret
Génial.
dans les rôles principaux. Et il y a eu une adaptation aussi avec Winona Ryder, qui date de 96, l'adaptation film, et qui est tout aussi géniale, parce que Winona Ryder est une excellente actrice.
C'est super.
Ouais. Donc si jamais vous trouvez pas le livre, regardez l'adaptation de 96, c'est génial. Voilà, et du coup, je l'avais mis juste avant, parce que le prochain dont on va parler, que tu m'avais offert et que tu as lu aussi, c'est aussi un livre qui est assez précis d'un point de vue historique. Et c'est Moi, Tituba ouais. Sorcière de Marie Scondé.
Et là, on va mettre plein d'alertes. Il y a des scènes de torture, des scènes de viol. C'est assez dur, ouais, de manière générale, à lire.
C'est pas fun fun.
Bon, déjà, ça parle d'une sorcière, donc on sait qu'il va y avoir persécution, mais en plus, ben, ça se passe pendant l'esclavage. Je l'ai lu il y a un petit peu de temps maintenant, ça doit faire peut-être 3 ans. Donc je me rappelle que Tituba, c'est une petite fille qui perd sa mère assez jeune, qui est pendue par le... Comment on dit ? Le monsieur qui gère une plantation. Bref, un Américain blanc qui a une exploitation et qui exploite des esclaves. Et cette petite fille va être un peu livrée à elle-même. Et elle va, en grandissant, je crois qu'elle est plus ou moins adolescente, être prise sous l'aile d'une sorcière qui va lui apprendre tout ce qu'elle sait sur la magie et comment faire de la magie avec ce qu'elle a sous la main dans la nature. Et bien sûr, elle va rendre service à des gens, mais elle va aussi payer très cher le prix d'être une femme noire, et d'être une femme noire qui, en plus, a des pouvoirs de sorcière. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit. C'était vraiment très beau. C'est très dur et très beau en même temps.
Ouais. Et alors, moi, ce qui m'avait interpellée beaucoup, en fait, j'ai lu ce livre, je l'ai adoré. Et il y a pas longtemps, j'ai écrit une chronique dessus pour un site internet. Et je suis allée voir les infos sur le livre. Et ce livre date de 1988. Alors oui. Que j'avais l'impression que c'était un truc hyper moderne, tellement l'écriture ne donne pas l'impression que c'était des années 80, quoi.
Ouais, 90. C'est
vrai. Et j'avais été vachement surprise par ça. Et aussi, quand je le lisais, je me disais, mais Tituba, ça me dit quelque chose. Et à un moment dans l'histoire, elle se fait... Bah, elle est esclave, elle se fait racheter par un pasteur qui va aller s'installer à Salem. Et c'est là que revient le lien avec l'histoire, et c'est de là que Marie Scondé a puisé son inspiration, parce que du coup, Tituba, c'est une des premières personnes qui ont été accusées par les petites filles de sorcellerie à Salem. Et du coup, elle s'est dit, tiens, quelle pourrait être l'histoire de cette personne qui a vraiment pas eu de chance.
Et le livre a la particularité de parler d'une sorcière qui, certes, subit les horreurs de son époque et le colonialisme, mais qui, en plus, est vraiment une sorcière. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est accusé à tort, elle a vraiment des pouvoirs, qu'elle s'en sert pour le bien ou pour le mal, en tout cas, elle en a, quoi. Et je trouve que c'était un peu inédit, enfin, j'avais pas lu quelque chose d'aussi historiquement proche de la réalité et qui, en même temps, prenait le parti quand même de faire de cette sorcière une vraie sorcière.
Mmh. Ouais. Ça fait partie des choses qui font que j'ai beaucoup aimé, c'était le fait que ça soit hyper proche de l'histoire et que, du coup, ça rend l'histoire hyper crédible.
Et puis en plus, moi c'était le premier livre que je lisais de Marie Scondé, j'en ai pas encore lu d'autres, mais je trouve qu'elle elle la rend vraiment réelle parce que
c'est super bien
la façon dont elle décrit ses liens avec sa famille, avec les personnes qui l'entourent, Je trouve que c'est très fort et c'est très, bah, c'est une vraie personne, quoi. On pourrait la toucher.
On va passer à une figure un peu moins sympathique, avec encore une fois du théâtre, et c'est Médée de Euripide, que vous pouvez trouver dans les collections Librio à 2 euros. Donc c'est pas très cher. Et Médée, alors Médée c'est une magicienne antique, donc c'est pas une sorcière vu qu'à l'époque il n'y avait pas de sorcière, c'est une magicienne. Et c'est un peu comme Carrie, c'est sa magie vient de la haine et de la colère. Et du coup, pour vous faire court, en fait, ça va se concentrer sur, si vous connaissez pas le mythe de Médée, je ferai sûrement un jour une chronique dessus, mais Médée, c'est une magicienne qui a trahi plein de gens pour arriver à ses fins, épouser l'homme qu'elle veut, et sauf que l'homme qu'elle veut, il a épousé quelqu'un d'autre, et du coup, par vengeance, elle a tué ses enfants. Et donc, l'histoire se concentre sur... comment elle va arriver à tuer ses propres enfants. C'est plein de grands monologues de Médée, plein de colère, et quand vous lisez ce livre, moi je peux pas m'empêcher de lire ça à voix haute et de faire comme si j'étais une grande actrice de tragédie. Et du coup, c'est vraiment le truc qui se lit rapidement et que moi j'avais lu la première fois à l'école parce qu'on était allé avec la classe voir une représentation de Médée au théâtre. Ça décrit bien la colère et la violence et... Et c'est du coup une figure de sorcière intéressante. Médée, c'est une des figures de magicienne qui a influencé la figure de la sorcière aujourd'hui. Donc c'est aussi intéressant de lire ça pour voir.
C'est passionnant parce que je crois que je dois l'avoir dans la catégorie théâtre de mes livres que j'ai pas encore lu. Du coup, ça me donne vachement envie de le lire. Et puis en plus, je trouve que c'est rigolo que ce soit comme de par hasard une dame qui va tuer ses enfants et du coup... Elle va être un petit peu la base de toutes ces sorcières qui sont censées manger des bébés à la pleine lune.
Bah elle le fait vraiment par vengeance, parce que son mari, pour qui elle a tout sacrifié, pour qui elle a fait des choses horribles, décide de l'abandonner avec ses deux gosses. Et au bout d'un moment, il veut récupérer ses gosses parce que elle, il ne l'aime plus, mais les gosses, il les aime bien. Et du coup, elle se dit, pour lui faire souffrir autant qu'il me fait souffrir... Le seul moyen que j'ai, c'est de tuer les enfants. Et d'autres gens au passage, parce qu'elle tue beaucoup de gens, Médée. Donc, trigger, alerte, meurtre, beaucoup de meurtres.
Infanticide.
Voilà.
Tragédie,
souvent,
quoi.
Dans le théâtre tragique, à la fin, il reste une personne sur scène, tous les autres, ils sont par terre.
Il n'y a pas d'histoire grecque mignonne, de toute façon.
Non. Et je ne l'ai pas rajouté dans la liste, parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais on aurait pu mettre Macbeth de Shakespeare. Ça commence par trois sorcières qui font une prédiction à Macbeth en lui disant qu'il va devenir le roi d'Angleterre, machin. Et ça va l'emmener, encore une fois, à commettre des meurtres.
Bon, mais les prédictions, c'est nul. Faut arrêter de faire des prédictions du futur.
Et c'est, encore une fois, c'est un livre aussi marquant dans l'histoire de la figure de la sorcière, Macbeth, parce que... C'est un des premiers livres qui réutilise la figure de la sorcière pour écrire une histoire et non plus... on est sorti du coup de la période où vraiment les sorcières, c'est les trucs terrifiants qui sont autour de nous, des choses comme ça. Là, on a commencé à se détacher de cette figure de la sorcière et du coup, on se met à écrire des trucs où c'est juste des personnages de livres et non plus ta voisine peut-être qui va tuer ton enfant.
Ça entre vraiment dans la culture.
Dans la culture populaire, ouais.
Plus seulement dans les avertissements qu'on peut dire à ses gosses quand ils sont passages.
Oui. Un autre livre qu'on peut mettre après Médée, c'est parce que ça parle aussi d'une figure de magicienne de l'Antiquité, c'est Circé de Madeline Miller, qui est un livre qui a beaucoup fait parler de lui récemment parce que il a vachement bien marché.
Ouais, je peux le lire.
Donc, c'est un très bon livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et qui reprend du coup l'histoire de Circé, qui est la fille de Hélios, le dieu du soleil, et d'une humaine, et qui est donc une demi-déesse. Et qui donc ce livre reprend toute la vie de ce personnage en reprenant toute la mythologie qu'il y a autour de Circé. Mais ça lie aussi cette histoire avec d'autres passages de la mythologie. Donc je ne suis pas du tout une spécialiste de la mythologie, donc je ne sais pas si c'est toutes ces histoires sont vraiment liées ou s'il y a vraiment des histoires qu'elle a rajoutées. C'est super bien écrit. Circé, c'est un personnage qui toute sa vie est tiraillé entre le fait justement d'être moitié déesse, moitié humaine, et qui du coup, elle est bien dans aucun des mondes, parce que les dieux vont lui reprocher d'être trop humaine, d'être trop sensible aux humains et à leurs besoins, à leurs conditions. Et à l'inverse, les humains vont la rejeter parce que c'est une demi-déesse et qu'elle leur fait peur, quoi.
C'est horrible. Personne ne la veut dans son équipe.
C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Personne ne la veut dans son équipe. Bah, évidemment, elle va se rapprocher de certaines personnes au long de son histoire. C'est un personnage très solitaire, même si elle a eu des relations fortes avec certaines personnes. Parce que déjà, comme elle est demi-déesse, elle vit très longtemps. Donc les relations qu'elle peut avoir avec les humains... au bout d'un moment, il meurt, quoi. Et qui est très solitaire parce qu'elle est un peu rejetée de partout. Elle va être mise en exil par les dieux. Donc c'est un personnage plein de colère. C'est vraiment une super histoire qui je comprends pourquoi ça a autant marché.
Bah, j'avais vu en allant chercher des informations sur cette autrice qu'elle était spécialiste en mythologie. Et ça avait l'air trop intéressant.
Et c'est ce que je trouve aussi très fort d'écrire un livre avec des histoires qui sont assez connues par tout le monde. Parce que tu pourrais dire, en fait, tu connais la suite, donc c'est pas intéressant. Mais c'est tellement bien écrit et c'est tellement bien agencé entre elles, les histoires, que tu prends plaisir à lire le livre. Et il y a même, justement, des fois où je savais ce qui allait se passer et j'attendais que ça se passe ça. Genre, je voulais aller vite pour dire « Ah non, c'est pas le personnage qui meurt là, ça va être trop triste !» Et du coup, je lisais plus vite pour voir ce moment-là.
Comment je pourrais faire une transition? Je ne vais pas faire de transition. Moi, je vais vous parler de contes, parce que des contes qui parlent de sorcières, il y en a plein, et on parlait de George Sand au début. George Sand, elle vient du Berry, et le Berry, ça n'existe plus administrativement, mais ça se situe vers l'Indre, quoi, et c'est censé être une région très marquée par la sorcellerie et les histoires de sorcières. Et du coup, ayant de la famille originaire du Berry, je me suis dit, tiens, est-ce que j'essaierais pas de lire des contes du coin, histoire de m'imprégner, et en plus j'avais de l'espoir qu'il y en ait qui parlent de sorcières. Et effectivement, c'est le cas. Alors il n'y a pas seulement des contes qui parlent de sorcières, il y a des contes qui parlent de toutes sortes de choses plus ou moins mignonnes ou cruelles ou absolument horribles, comme tous les contes. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que dans le Berry, la sorcière, c'est un peu confondu avec les fées, dans le sens où il y a des contes qui les confondent. Il y a des contes qui pensent que une sorcière, ça va être une fée qui est un peu, virée de bord et mal tournée. une fée qui a été envoyée à Serpentard. et du coup, il y a énormément de mots pour dire fée et énormément de mots pour dire sorcière, mais il y a un mot qui rejoint un peu les deux, ça va être fade, F-A-D-E, d'où, la petite fadette, du coup. Et il y a notamment une de ces histoires que raconte Corinne Duchesne qui est atroce, qui explique que dans les champs, parfois, on peut trouver des sorcières décharnées, très grandes. Alors évidemment, elles ont une apparence qui fait très peur, parce que ce sont des sorcières. Et en fait, elles attirent des jeunes hommes, trigger warning, viol, et elles les violent dans des buissons. Et en fait, il y a la moitié de leur corps qui est une vieille dame décharnée et la moitié de leur corps qui est une jeune femme très belle. Et ça fait penser à tous les contes de sorcières qu'on connaît où, en fait, ce sont des femmes atroces.
Et souvent, les contes, c'est soit l'une, soit l'autre. Là, c'est les deux.
Exactement. Exactement. Souvent, tu vois un peu, comme dans le film The Witch, les sorcières qui, en fait, sont d'atroces vieilles dames, évidemment, puisqu'elles sont vieilles, elles sont horribles, laides et méchantes. Mais elles attirent souvent les hommes, du coup, en se faisant passer pour des femmes très belles, etc. Et là, il y avait vraiment ce côté-là. C'était vraiment typiquement l'histoire de la sorcière.
Pile ou face.
Exactement. En fait, c'est pile ou face aussi, c'est qui tout double la figure de la sorcière dans les légendes du coin. Ça va être soit de vieilles dames du village qui n'ont pas eu trop de chance et qui sont plutôt laides, mais qui aident les autres en faisant des petits onguents et des petites préparations, soit des êtres vraiment maléfiques qui ont plus à voir avec des fées qu'à des humains et qui vont persécuter les humains pour le fun.
Pour le fun.
Voilà, le berry, c'est sympathique.
Eh bien, continuons sur les persécutions avec les sorcières de Pendle de Stacy Halls, qui est un livre que ma sœur m'a offert. La dame qui a écrit ce livre est partie des procès qui ont eu lieu dans la région de Pendle, donc qui est une ville du Lancashire, en Angleterre. Sachant qu'en Angleterre, il y a eu très peu de chasse aux sorcières. La plupart de la chasse aux sorcières, c'était plutôt en Écosse. Et elle a vu sur les résumés de ces procès qu'il y avait une personne qui avait été acquittée, une femme qui avait été accusée de sorcellerie, qui a été acquittée. Et du coup, elle a décidé d'écrire l'histoire de comment cette personne peut réussir à sortir d'un procès de sorcellerie, parce que comme on a déjà pu en parler dans d'autres épisodes, généralement, les procès de sorcellerie, c'est soit t'es coupable. Donc, oui. Il n'y a pas trop d'options.
Et même quand t'es pas coupable, on décide quand même de te tuer pour le bien de ton âme.
C'est ça, voilà, dans le doute. Et du coup, elle est partie de l'histoire d'une dame noble qui a fait plusieurs fausses couches et qui, du coup, n'a toujours pas d'héritier. Et un jour, va croiser cette personne qui a été accusée de sorcellerie, qui est sage-femme, et qui va lui demander de l'aider. Et de cette relation va du coup naître une protection qui après aidera quand elle sera accusée de sorcellerie. C'est un livre qu'on lit une fois avec plaisir, mais qu'on relira pas des centaines de fois. Mais la foi avec plaisir fait beaucoup plaisir. J'ai beaucoup aimé cette histoire.
C'est tout ce qu'on veut des fois. C'est lire ça. Une bonne histoire.
Exactement.
Je crois que tu m'en avais déjà parlé.
Possible.
Ça fait envie. Je crois que la couverture est très jolie. Le livre est très beau. Aussi.
Ouais.
C'est là que je m'en souviens.
Le livre en lui-même est une très belle illustration qui, en plus, pour une fois, quand ils ont édité le roman en France, ils ont gardé la belle illustration.
Mais souvent, on peste un peu avec Louise parce qu'on trouve qu'en France, les éditions...
Ils font pas d'efforts.
Ils font pas trop d'efforts pour rendre ça. On trouve que les éditions anglophones, souvent, sont très jolies.
Rentrer dans une librairie en Angleterre et en France, c'est pas la même expérience.
Mm-hmm. Essayez de faire une bibliothèque arc-en-ciel avec des livres français.
Blanc.
C'est pas drôle.
Tellement de blanc. Et le photo libre de droit.
Alors, on va continuer... Sur les livres de contes et les livres de contes que je n'ai pas encore lus. Alors c'est un grand livre, je pense qu'il a dû être édité en poche, mais moi je l'ai en très grande édition chez Le Duc. Ça s'appelle Superstition et croyances des pays de France. C'est écrit par Marie-Charlotte Delmas. Et c'est majoritairement des très belles images et de temps en temps des petits contes rédigés par coin de la France. J'ai pour l'instant juste lu un conte de Bretagne et il y a quelques histoires de sorcières, mais voilà, c'est pas uniquement des sorcières. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte. Comme tout le reste. C'est bien ça le problème.
C'est un beau livre.
C'est un beau livre, ouais. Il y a des belles images. Il y a des belles gravures. Ils ont fait un bel effort.
Alors, pour finir la partie fiction, je vais vous faire un combo. Cette fois-ci, de Terry Pratchett et de Neil Gaiman. Parce que je pense que quand on aime les sorcières, on sera toujours contente avec des livres de Neil Gaiman et de Terry Pratchett. Je vous avais déjà parlé dans notre premier épisode du livre « Trois sorcières » de Terry Pratchett. Donc, qui reprend trois sorcières qui vont vivre une aventure. Je ne vais pas refaire ici parce que ça fait déjà une heure qu'on parle et que je pense que vous avez envie qu'on avance. Mais il y a aussi... Pratchett et Gaiman ont aussi écrit un livre ensemble qui s'appelle « De bons présages » qui a été adapté récemment en série télé et qui parle de d'un démon et d'un ange qui vont s'allier pour essayer de contrer la venue de l'Antéchrist, qui est un petit garçon. Et dans ce livre, il y a aussi une sorcière, qui est une jeune femme qui a hérité d'un livre d'une de ses descendantes, qui était une sorcière complètement folle qui faisait des prédictions. Et en fait, tout le travail de ses descendantes, ça va être d'interpréter ses prédictions, parce qu'elles sont toutes vraies, mais elles sont difficiles à comprendre.
Ça a l'air bien.
C'est hyper drôle, c'est complètement barré. Enfin, j'ai adoré ce personnage de sorcière dans ce roman. Et en plus, c'est très très drôle parce qu'il y a aussi des personnages de chasseurs de sorcières. Donc de grands inquisiteurs qui veulent aller à la chasse aux sorcières, mais qui ne savent pas trop comment on s'y prend et comment on fait. Et évidemment, ils vont se rencontrer à un moment. Et enfin, ils se sont appropriés la figure de la sorcière d'une manière hilarante. Et j'ai beaucoup aimé. Et pour continuer, cette fois dans Neil Gaiman, il utilise beaucoup de personnages féminins qui font de la magie, sans forcément dire que c'est des sorcières. Mais en particulier dans son roman Stardust, qui est petit roman qui peut être lu aux enfants, qui a été d'ailleurs adapté en film plutôt public enfant, mais qui est génial. Dans ce livre, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui habite dans un village juste à côté du pays des fées. Et son amoureuse lui dit « Je veux bien t'épouser si tu me ramènes une étoile filante ». Et donc, il va sauter le mur pour se rendre dans le pays des fées.
Elle voulait vraiment pas l'épouser.
Exactement. Il va sauter le mur pour se rendre dans le pays des fées et récupérer l'étoile filante qu'il a vue tomber. Sauf que quand il arrive sur place, il se rend compte que c'est pas un caillou, c'est une jeune femme, l'étoile filante.
Oh non.
Qui, évidemment, ne veut pas se laisser capturer pour être utilisée comme cadeau de mariage. Et il va être poursuivi par une sorcière qui, elle, veut attraper l'étoile filante pour manger son cœur et retrouver ses pouvoirs et sa jeunesse. Et,
oh mon Dieu.
Et c'est typiquement le personnage de sorcière méchante qui utilise sa magie pour le mal, mais comme on aime bien dans les histoires pour enfants.
Et qui mange des cœurs.
C'est ça. Voilà, c'était le combo. Je pourrais parler de Neil Gaiman pendant des heures et Terry Pratchett, je commence à découvrir, mais j'aime tout autant. Donc on va passer à autre chose pour te laisser un peu la parole. D'ailleurs, on va te laisser la parole pour la grande partie dédiée à ta spécialité.
La pratique. Moi aussi, je pourrais t'écouter parler de Neil Gaiman pendant des heures, même si je n'ai pas encore lu un seul livre de cette personne, que je sens que ça te dérange.
J'ai déjà prévu de t'en offrir à ton anniversaire si d'ici là, tu n'as pas réparé.
Ok.
Forcing.
Je vais faire ce que je peux, mais je veux bien que tu m'offres des livres à mon anniversaire quand même.
Au bout d'un moment, je vais me mettre à ta fenêtre et je vais le lire très fort.
Alors, du coup, ça va être la partie un peu plus pouf-souffle de la liste, puisqu'on va parler des livres qui parlent des pratiques ésotériques, des pratiques de sorcellerie, de magie, de... peu importe comment vous appelez ça. Donc, je préviens, il va encore y avoir des livres que j'ai lus partiellement, des livres que j'ai lus et des livres que j'ai pas encore lus.
Allons-y.
Alors, on va commencer par des livres plutôt généraux. Donc on va avoir The House Witch, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur où je fais une chronique sur la Kitchen Witchcraft, la sorcellerie de cuisine. C'est de Erin Murphy Hiscock, et pour le coup je n'ai toujours pas fini ce livre, parce que je le trouve pas très intéressant. Alors dites-moi si vous l'avez lu et qui vous a passionné jusqu'au bout, parce que finalement en fait... j'ai lu les passages qui m'intéressaient pour ma chronique et puis je suis allée un tout petit peu plus loin, mais je pense pas que je le finirai. Je pense que je vais le vendre parce que
déception.
Je crois que je me suis un peu laissée avoir par le packaging, of course. Après, je pense, enfin c'est pas complètement inintéressant, mais je pense que ça conviendrait peut-être mieux à quelqu'un qui veut vraiment pratiquer et qui a besoin d'un petit livre avec des recettes. Par contre, peut-être quelqu'un qui s'y connaît un peu plus dans tout ce qui est magie et cuisine, il trouvera peut-être plus son compte dans des livres qui, justement, parleront que des ingrédients ou même des symboliques de telle ou telle plante. Voilà. J'ai pas trouvé ça plus intéressant que ça. Mais le livre est très joli. Ensuite, toujours généraliste, il y a Witch Please de Jack Parker, qui a été illustré par Dick Lee, qui est très beau en plus. Pour le coup, je l'ai pas lu en entier, tout simplement parce qu'en fait, je m'en sers un peu comme d'une encyclopédie. C'est un peu ça le but aussi. Il est très complet, il va pas du tout en profondeur dans chaque domaine, mais il nous en dit assez pour nous donner envie, pour nous mettre le pied à l'étrier, ouais, pour faire nos propres recherches. Et je le trouve assez pratique parce que, voilà, si j'ai besoin de savoir la symbolique de telle et telle phase de la Lune, si j'ai besoin de savoir la symbolique très rapide de telle ou telle carte de tarot, par exemple, des symboliques des insectes, des animaux, de certains coquillages, etc. C'est plein de choses qu'on peut évidemment aller chercher sur Internet, sur plein de sites différents, mais c'est aussi pratique d'avoir tout ça dans un seul livre, même si on se doute bien évidemment que c'est pas l'unique symbolique qui existe, que la coccinelle ne symbolise pas uniquement la chance dans toutes les cultures, etc. Donc voilà, il est plutôt sympa, et en plus il est très joli, très joliment illustré par Dick Lee. Donc je pense que c'est un bon basique pour les personnes qui s'y intéressent, même si je crois aussi qu'un bon dictionnaire des symboles pourrait aussi faire l'affaire. Ce dans quoi je vais probablement investir également. J'en ai offert un à une amie pour son anniversaire et je me suis dit je vais m'acheter le même évidemment. Ensuite, il va y avoir la Bible des cristaux dont on a aussi parlé dans l'épisode sur la lithothérapie, qui est un livre de Judy Hall. Alors c'est un peu justement la Bible des livres dans ce domaine-là. Moi j'ai le premier tome, mais je sais qu'il en existe plusieurs autres. C'est assez pratique, je pense, pour les personnes qui s'intéressent à la lithothérapie, parce que encore une fois, c'est sous le principe de l'encyclopédie. On va avoir une à quatre ou cinq pages par cristaux, selon s'il y a beaucoup de choses à dire dessus ou pas. Après, moi, je reste quand même relativement méfiante parce que ça m'intéresse de savoir quelle symbolique il y a derrière tel cristaux, mais je ne suis pas vraiment partisane de tout ce qui est attribué des guérisons de maladies diverses à des cristaux.
La médecine,
donc, voilà, je pense que ça peut être marrant à avoir pour les personnes qui s'intéressent à la lithothérapie. Donc, tout ça pour dire que c'est le seul livre qui parle de lithothérapie que j'ai. Je l'ai acheté pour pouvoir parler de ça dans des articles ou dans ma chronique. Mais je pense pas que j'en achèterai d'autres parce que personnellement ça m'intéresse pas plus que ça. Cela dit, je pense qu'il y en a peut-être des mieux. Celui-ci date un petit peu d'ailleurs, donc il y en a peut-être des illustrés qui peuvent être un petit peu chouettes. Celui-ci fait peut-être un petit peu vieillot à côté. Et oui, j'ai oublié de dire, mais il y a quand même quelques pages au début qui expliquent un peu les principes de la lithothérapie et les différentes méthodes qui peuvent exister. Même si je pense que depuis, ça a dû certainement un peu changer. Ensuite, on va passer au livre que je n'ai pas lu. j'ai lu en partie. Mais en fait, c'est mon problème. Je lis des bouts. Il y a la réincarnation. Je cherchais un livre en fait sur la réincarnation des âmes dans plusieurs cultures et je trouvais que des choses qui étaient très très racoleuses et un petit peu sensationnelles. Et moi, tout ce que je voulais, c'était plutôt des faits historiques et culturels plutôt qu'on me dise comment accéder à mes mondes intérieurs. Et du coup, j'ai trouvé d'occasion un livre de A. Desgeorges. Alors, j'ai essayé de chercher des infos sur cet auteur. Je ne sais pas qui c'est. Donc, voilà.
Anonyme.desgeorges.
Ça s'appelle La réincarnation des âmes. Je pense qu'il est plutôt assez difficile à trouver parce qu'il est plus édité. Ou alors, il faut en faire la demande auprès de la maison d'édition. Mais je l'ai trouvé d'occasion. Et c'est vraiment passionnant. C'est en fait... on va avoir le principe de la réincarnation dans plein de cultures différentes et donc du coup il va y avoir des liens avec la sorcellerie et la magie dans plusieurs cultures, donc ça va aller de des cultures méditerranéennes en passant par l'Europe, en allant au sud de l'Afrique, en Océanie, etc. Donc c'est assez intéressant pour les personnes qui s'intéressent aussi un peu à l'ethnologie. L'ethnologie, c'est pour les animaux ou pas? C'est pour les humains. Non, l'éthologie, c'est pour les animaux.
Ouais. Anthropologie.
Voilà, c'est bien pour les gens qui s'intéressent à l'anthropologie et qui ont envie qu'il y ait des liens aussi avec la magie et la sorcellerie. Mais sinon, je pense que c'est un livre qui est plutôt compliqué à lire, c'est du langage d'anthropologue, donc... Mais c'est intéressant. Ensuite, livre que je n'ai pas encore lu et que j'ai trouvé dans une boîte à livres, ça s'appelle « Fleurs, fêtes et saisons » de Jean-Marie Pelt. Où le principe, c'est en fait par saison. Il va nous expliquer le folklore qui existe autour de tel et tel végétal. Et je trouve ça assez passionnant pour les gens qui s'intéressent à la magie folklorique plutôt. J'ai pas encore lu la partie de l'été, mais je pense que je vais le faire avant qu'on passe à l'automne et qu'ensuite je lirai chaque chapitre pour la saison.
Vite.
Ça m'aidera à tenir jusqu'à ce que l'automne arrive. Alors le prochain livre, je l'ai en partie lu. C'est un livre qu'il y avait chez mes parents quand j'étais petite, qui s'appelle Apprenez à mieux rêver et à tirer parti de vos rêves de David Fontana. Alors je sais que la magie des rêves, c'est des choses qui intéressent pas mal de gens. D'ailleurs, une fois, on avait eu une question à ce sujet en message privé sur Instagram. Mais comme je n'en savais pas plus que ça, j'ai pas pu trop aiguiller la personne. J'ai juste ce livre qui est un livre de symbolique, en fait, d'interprétation des rêves. Moi, il m'avait beaucoup marqué quand j'étais petite parce que les illustrations étaient à la fois belles et flippantes. et il y a tout un chapitre qui explique comment on peut partager des rêves. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte de rêver de la même chose avec quelqu'un et d'essayer de se retrouver dans ses rêves. Et du coup, ça mêle le rêve et l'ésotérisme, parce que tu pars du principe que quand tu retrouves la personne dans tes rêves, ce n'est pas la personne dont tu rêves, mais c'est la personne qui vient dans tes rêves. Et du coup, c'est passionnant. On a essayé de le faire avec une pote une fois, et puis après, on n'y a plus pensé. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, il y a un chapitre là-dessus. Le prochain livre dont je vais parler, je ne l'ai pas encore lu non plus, ça s'appelle « Le Vaudou » de Claude Plançon. Je l'ai aussi trouvé d'occasion parce que je cherchais un livre sur le vaudou. Et encore une fois, j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui avait l'air de pas trop racoleur, de pas raciste, de pas trop sensationnaliste, en mode « ces gens bizarres qui font du vaudou ». Et voilà. Du coup, j'avais lu la quatrième
de couverture du doigt.
Qui avait l'air plutôt neutre et qui considérait le vaudou comme une religion à part entière et pas comme ce truc bizarre que font les trucs pas blancs. Et du coup, je l'ai pas encore lu. Je pense que ce sera quand je préparerai un épisode sur le vaudou, je ne sais pas encore quand ce sera, mais il a l'air intéressant. La couverture est jolie aussi.
Ah.
Ensuite, on va passer à deux sujets, le tarot et l'astrologie. On va commencer par le tarot. Moi, j'ai un livre que, pareil, j'avais trouvé dans une boîte à livres qui s'appelle « S'initier facilement au tarot » de Catherine Debelle. Alors, Catherine Debelle, je l'aime bien, mais parfois, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit.
C'est de l'amour et de la haine.
Je prenais des petites notes au début quand je voulais apprendre le tarot, et du coup, moi, comme je connaissais un peu l'astrologie avant, j'essayais de trouver des liens symboliques entre des cartes et des signes, et des fois, ce qu'elle disait, ça me paraissait complètement... faux ou tiré par les cheveux, et du coup dans mes petites notes j'écrivais toujours Catherine tu dis n'importe quoi, bref. Mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée quand même pour les gens qui connaissent rien au tarot. Moi j'ai ce livre là qui date des années 90 et qui mélange plein de choses certes, mais il a le mérite d'être assez complet. Il y a plein d'idées de tirage et à la fin il y a même un petit test: êtes-vous fait pour être médium? Et moi, apparemment, je suis faite pour être médium, car j'ai de l'empathie.
Voilà. Oh, tes pauvres souffles, quoi.
C'est ça.
Les pauvres souffles sont des médiums.
Même si on me donnait la possibilité, c'est mort. Encore aujourd'hui, j'ai fait un test sur un filtre sur Instagram qui me disait quelle série télé j'étais. Et il m'a dit médium. Pas du tout. J'adore cette série, mais pas du tout. Et du coup, pour compléter mes recherches sur le tarot, je voulais lire un vrai livre recommandé par les personnes qui s'intéressent de près au tarot. Et tout le monde en parlait, notamment Jack Parker. C'est La Voix du Tarot de Alejandro Jodorowsky, qui est aussi un cinéaste. Et j'ai mis longtemps à le trouver d'occasion parce que j'ai l'impression que c'est super à la mode en ce moment, le tarot, et les gens mettent des prix exorbitants sur des livres d'occasion qui sont des livres poches qui n'étaient pas si chers que ça à la base. Bref, tout ça pour dire que maintenant je l'ai. Je ne l'ai pas encore lu. Il est assez gros. Et j'ai vu que Alejandro, Jodorowsky avait également écrit un livre qui s'appelle Le Chant du Tarot, où en gros ça complète le premier. La voix du tarot, il va plutôt t'expliquer vraiment les symboliques pures et dures de toutes les cartes, alors que dans Le Chant du Tarot, ça va plutôt être un objet littéraire et lyrique, un peu poétique sur chaque carte de sa part. Donc voilà, si jamais vous avez lu La Voix du Tarot, sachez qu'il y a ce livre-là qui existe aussi, si vous avez envie d'être plus dans la beauté du geste. Ensuite, l'astrologie. Ah. Là, j'ai plein de livres. Alors.
Là, c'est ta passion, alors t'as la collection.
C'est la passion astrologie. Le premier que j'ai lu, c'est le livre de Maëva Stéphane Buny, qui est celle qui gère le compte Instagram Astrotruc, que vous connaissez peut-être. Elle a créé un livre qui s'appelle L'astrologie pour révéler son potentiel, c'est aux éditions Marabout. Et il est très rigolo, parce que déjà il est très drôle. Je me rappelle, à l'époque, j'étais en stage dans une rédaction, et quand on l'avait reçu, tout le monde était à fond dessus, et se le passait de main en main, et tout le monde rigolait, et passait de page en page. Du coup, je pense qu'elle a réussi, en fait, le but qui était de mettre l'astrologie à portée de main en faisant rire. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est conçu comme un petit cahier où tu peux faire des tests, prendre des petites notes. Je trouve que c'est pour les personnes qui connaissent pas trop l'astrologie, qui aimeraient bien s'y mettre mais qui trouvent ça un peu intimidant, ça peut être un bon pied. Ouais. Ensuite, on va avoir Astromap de Mathilde Fachan, qui elle est l'autrice du podcast Z comme Zodiac, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur l'astrologie.
Et qui fait des bons gâteaux.
Oui, qui fait les bons gâteaux au café Contresort, c'est délicieux. Son livre est vraiment super. Pour le coup, je trouve qu'il s'adresse autant à ceux qui s'y connaissent vachement et qui ont besoin de savoir ce que ça fait que d'avoir telle planète dans telle maison avec tel signe, que ceux qui découvrent tout juste que déjà dans l'astrologie, il y a plein de planètes, plein de signes et plein de trucs en plus. Il est aussi très bien illustré, c'est très joli. C'est illustré par Clémence Gouy. Et c'est très complet, c'est très bien expliqué. Je trouve que Mathilde Fachan, elle a plein de pédagogie, et elle fait plein de petites métaphores qui sont très faciles à retenir quand on commence à l'astrologie. Donc je le recommande vraiment. En plus, il est plutôt conséquent comme livre. On n'en vient pas à bout tout de suite. Et il a la particularité aussi, en fait, d'avoir un petit carnet à la fin aussi, où on peut prendre plein de notes, avec un petit poster où on peut mettre son thème astral et ses petites impressions et tout.
Ah, c'est cool pour s'approprier le truc.
Ouais, pour les gens qui aiment bien faire ça, je recommande. Le troisième livre qui est sorti... En fait, les trois livres, je crois, sont sortis la même année, en 2020. C'est L'astrologie miroir de Marie-Célène, qui, elle, est la créatrice du podcast Invente ton ciel, avec le compte Instagram du même nom. Et ah, gros coup de cœur pour ce
nom me disait quelque chose.
Ah. Oui, tu suis, je suis contente. on parlait de Witch Please, qui avait été illustré par l'illustratrice Digli, et l'astrologie miroir a été illustré aussi par cette illustratrice, et c'est trop joli. Je pourrais passer des heures à juste regarder les images. C'est trop bien. Bref, et en gros, Marie-Célène, elle a, je trouve, l'excellent parti de raconter des histoires pour t'expliquer l'astrologie. Et du coup, c'est hyper facile à prendre en main. Au début, on se dit, ouais, d'accord, elle va nous parler de mythologie. Moi, j'y connais rien en mythologie, je sais pas si je vais suivre et tout. Et en fait, par exemple, elle va t'expliquer que... les planètes, c'est des personnages, et les signes, des paysages, et du coup, elle va te mettre telle planète dans tel signe, et elle te raconte que c'est ce personnage dans ce paysage, elle va t'imaginer toute une scène avec, et ça aide vachement à visualiser les choses. Voilà, je recommande. Ensuite, j'ai un livre sur l'astrologie celtique, figure-toi. Car oui, il y a une astrologie celtique. Alors celtique, jusqu'à quel point je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui il y a des personnes qui s'intéressent aux cultures, aux multiples cultures celtiques, parce que ça aussi ça fait beaucoup de débats chez les historiens, Et parmi ces personnes, il y a des gens qui sont partisans d'une astrologie celtique. En gros, c'est plus un zodiaque différent qu'une astrologie différente. Il y a, il me semble, 36 signes.
Seulement.
Moi, je crois que j'étais héros solaire épicéa. ce qui était d'ailleurs...
Ils ont totalement inventé des trucs.
Non, figure-toi, parce qu'en fait, c'est drôle, c'est... Ça part à la base de... Comment dit-on ? De constellations. Et les constellations, chaque culture se les approprie en mettant les dessins qu'elle veut et les mythes qu'elle veut. Et bah, y a quand même plusieurs mythes qui se rejoignent, on va dire, dans toute l'Europe. L'astrologie celtique, ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent enrichir leur connaissance de la mythologie, avec notamment des histoires des mythes celtes. Voilà, je recommande surtout pour ça. Et le dernier livre d'astrologie dont je vais vous parler, c'est un livre que je n'ai pas encore lu, qui a été écrit par André Barbeau, qui est le Traité pratique d'astrologie. Comme j'avais déjà lu plusieurs ouvrages récents d'astrologie, je voulais en lire un classique, et du coup, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vraiment les bases des bases. Après, encore une fois, je pense qu'il faut mettre des trigger warnings, parce que ça a été écrit par un monsieur dans les années 50, donc bah, y a plein de biais de type « les signes masculins font ça, les signes féminins font ça », mais ça a l'air bien quand même.
Et pour finir, notre dernière partie, les livres pour enfants.
Alors du coup, on va passer à la catégorie livres jeunesse.
Avec un classique de notre jeunesse.
Oh oui, La sorcière de la rue Mouffetard et les autres contes de la rue Broca, de Pierre Gripari. Si comme moi vous avez lu, quand vous étiez petite à l'école, ces récrés où il pleuvait et où on pouvait pas aller dehors... Du coup, la maîtresse, souvent, elle nous lisait des morceaux de ce livre.
On a un peu triché parce qu'il n'y a qu'une...
Ouais.
En fait, c'est un recueil de nouvelles et il n'y en a qu'une seule qui a une sorcière dedans. Mais comme c'est super bien, eh ben, on a quand même mis dans la liste.
Ah ben voilà, la nouvelle qui parle de la fameuse sorcière de la rue Mouffetard, c'est la fameuse nouvelle où la petite fille Nadia doit aller acheter une grosse boîte de tomates à l'épicier, et elle se fait apporter dans la rue Mouffetard par la sorcière de la rue Mouffetard.
La méchante sorcière.
Ah non, c'est la sorcière, je crois, qui lui demande d'aller lui acheter une boîte de tomates, parce que, en plus, ce qui est horrible, c'est que cette sorcière lui demande d'aller acheter une boîte de tomates, qui est en fait l'ingrédient pour faire cuire la petite fille une fois qu'elle arrive chez elle. En tout cas, très beau conte. En plus, c'était trop marrant à lire parce que, enfin, je sais pas toi, mais quand j'étais petite, je lisais toujours des vieux contes. Et là, c'est la première fois où je lisais un conte qui se passe à l'époque contemporaine où on allait acheter une boîte de tomates, quoi.
Ah non, bon, je lisais. Ma maman était documentaliste à l'école, alors du coup, j'ai lu beaucoup de livres pour enfants.
Non, la chance.
Je pense que c'est des livres qui sont encore beaucoup édités et qui ont été beaucoup achetés, donc vous devez sûrement s'y trouver facilement d'occasion. Et c'est les classiques pour enfants indispensables.
En plus, les illustrations étaient cool.
Je voulais faire une mention rapide pour deux livres autour des sorcières, plutôt pour les petits-enfants, mais j'en fais une mention rapide parce qu'ils sont plus édités, alors peut-être que vous pouvez les trouver d'occasion, mais pour pas vous faire trop mal, c'est pour ça que j'en fais une mention rapide. Le premier, c'est La sorcière camomille. Nous, on avait un recueil de toutes les histoires de la sorcière camomille. Et donc, c'est une sorcière à qui il arrive plein d'aventures. Et comme nous, on avait un recueil, je les lisais à la suite. Et donc, il y a des histoires où, je sais pas, elle va au bal. Il y a une histoire où elle a un problème avec son balai. Il y a une histoire où elle se marie. C'était trop triste. Il y a une histoire où elle se marie. À la fin, son mari, à cause d'un tour de magie, il rapetissait jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et puis voilà.
Ah non, pas de chance.
Et tout le reste des histoires, elle est célibataire et elle vit sa meilleure vie, mais t'as quand même cet événement traumatique qui est raconté, genre « Ah bah il a disparu, bon bah maintenant elle est toute seule. »
Mes condoléances. Ah non, elle est pas morte, elle a juste disparu.
Donc ça, c'était La sorcière camomille que j'ai beaucoup et que j'aimais beaucoup. Et j'avais aussi deux albums, c'était La sorcière Pélagie cette fois. Et donc j'avais La baguette magique de Pélagie et j'avais L'hiver de Pélagie. Et c'est des albums jeunesse pour vraiment les tout-petits, où c'est les aventures de cette sorcière. Alors dans La baguette magique de Pélagie, elle met par inadvertance sa baguette magique dans la machine à laver. Et du coup, elle marche plus et elle est embêtée parce que elle doit aller faire une démonstration à une grande convention de sorcières.
C'est un peu abusé qu'elle marche plus parce qu'une fois, mon iPod, quand j'étais plus jeune, il était passé par la machine à laver, il marche encore après.
C'est moins solide.
C'est pas magique.
Il lui faut une eye baguette.
I want.
Du coup, voilà, c'était. Les illustrations sont super sympas en plus. Et dans L'hiver de Pélagie, c'est l'hiver et elle aime pas ça parce qu'il fait froid. Et du coup, elle fait un sort pour que juste au-dessus de sa maison et de son jardin, ça soit l'été. Sauf que très vite, ça part en cacahuète parce que t'as tous les voisins qui viennent chez elle pour se chauffer au soleil. Et puis t'as les plantes qui sont pas habituées à tant de chaleur qui commencent à crever. Et donc, ça ne se passe pas du tout comme elle veut. Et dans les deux histoires, elle a un chat qui est super cool et qui est dessiné tout ébouriffé, un peu genre le chat dans Cendrillon, tu vois.
Lucifer, je crois.
Ouais.
Meilleur nom pour un chat, d'ailleurs.
Allez, c'est anglais, Pélagie la sorcière, et je crois que ça fonctionne toujours en Angleterre.
Je connaissais ni l'un ni l'autre.
Après, ça doit être justement des découvertes. Il y a tellement d'histoires pour enfants avec des sorcières dedans que je pense qu'on peut en trouver facilement
oui.
D'autres qui fonctionnent aussi bien. Voilà. Ensuite, on va vous parler d'un truc pas très connu.
Non, c'est un peu obscur. Je pense pas que vous connaissiez. Mais on va quand même vous en parler parce que on aime bien.
Alors, c'est en 7 romans.
Il y a eu des films, mais qui n'ont pas trop marché non plus.
C'est donc, si vous ne l'avez pas deviné, Harry Potter. Qui a marqué, je pense, toute une génération, et même plusieurs générations.
Plein de générations.
Et qui maintenant est le passage obligé, à partir de 10 ans environ, des enfants. Les parents leur achètent le Harry Potter.
Ouais, c'est. Je sais pas si vraiment il y avait autant une folie du monde de la sorcellerie dans les histoires pour enfants avant, mais en tout cas.
Ah si.
Ça a rendu en tout cas l'imagerie.
La figure de la sorcière, elle a toujours été très populaire dans les histoires pour enfants, dans les contes, c'est toujours.
Ouais, mais c'était pas forcément des figures sympathiques. Alors que là, on nous fait découvrir un monde où déjà la sorcellerie, c'est la norme. Et qui est en fait justement pour ça caché. C'est-à-dire que en fait on nous fait découvrir un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, seulement nous on serait juste des moldus qui seraient pas au courant que la magie existerait vraiment, quoi.
Je saurais pas dire comment ça se place parce que il y avait aussi, on va en parler un petit peu après, des romans de Roald Dahl où il y a des sorcières qui sont gentilles. C'était pas nouveau, la figure de la sorcière en tant que personnage sympathique. Ouais. Je crois que c'est vraiment là tout l'univers autour de la sorcellerie qui est peut-être plus novateur.
Ouais, il y avait
c'est
déjà
plus un personnage isolé.
En ce domaine.
Ouais.
Mais là, pour le coup, il y avait vraiment une multiplicité de personnages qui étaient des sorciers et des sorcières. Et tu regardes une œuvre où vraiment tout le monde est un sorcier et tout le monde est une sorcière quasiment, quoi.
Est-ce qu'on a besoin de parler beaucoup de Harry Potter?
Du coup, Harry Potter, c'est l'histoire.
Je pense que tout le monde connaît.
Pour
si
ceux qui
n'auraient
pas
lu,
je recommande de les lire parce que déjà, c'est excessivement drôle, je trouve.
C'est vrai que l'humour n'a pas été beaucoup retranscrit. Ils ont dû faire des choix, évidemment, de passer des choses à la trappe dans les films. Et l'humour en particulier a beaucoup été coupé.
C'est déjà assez drôle en français, mais je les ai pas tous lus en anglais. Mais ceux que j'ai lus, je les ai trouvés particulièrement marrants. Après,
En général, la fantaisie anglaise, c'est très drôle.
Les Anglais ont un humour pince sans rire, comme dirait la tante Pétunia. Mais oui, je conseille même aux adultes qui pensent que ça ne les intéresserait pas ou qui ont même pas forcément vu les films et qui s'intéressent pas, qui savent même pas parfois de quoi ça parle, parce que oui, il y en a, Louise, il y en a. Franchement, je conseille parce que c'est une belle histoire d'amitié. On s'attache à énormément de personnages.
Ça m'avait marqué parce que j'avais fait une série d'interviews de gros fans de Harry Potter. Et il y en avait plusieurs d'entre eux, quand je leur demandais comment ils avaient découvert Harry Potter, qui disaient qu'au début, ils voulaient pas du tout les lire. Parce que, en fait, c'était tellement rabâché tout le monde, tout le temps, de Harry Potter, c'est génial, et on voit que ça, et on parle que de ça, et on vend que ça, qu'ils avaient pas envie. Ils avaient soit des gros a priori sur le truc, genre, ouais, c'est le truc populaire, mais en fait... C'est pas très bien, quoi. C'est juste que ça a des thèmes qui font plaisir à tout le monde. Et c'est très drôle de voir qu'il y a beaucoup de gens qui, du fait de la popularité, n'ont pas voulu se lancer dedans. Et qui, un jour, pour une raison ou pour une autre, ont commencé et en sont devenus des énormes fans très impliqués depuis.
C'est drôle, ça. Après, je sais qu'il y a des œuvres qu'il vaut mieux découvrir quand on est jeune. Mais pour le coup, je pense que Harry Potter, tu peux vraiment le découvrir adulte, jeune adulte,
à tout âge,
ado, tout le temps. Bah moi, je l'ai redécouvert, ouais, en fait, parce que je les lisais presque une fois par an jusqu'à ma vingtaine à peu près, et ensuite plus du tout. Et au début de la crise sanitaire, j'ai décidé de tous les relire, et en fait, je les ai vraiment redécouverts avec mes yeux d'adulte. Donc si vous ne les avez pas lus depuis longtemps, je conseille. C'est assez déroutant parce que on se rend compte à quel point on n'est plus la même personne, mais on se rend compte aussi de la violence du monde dans lequel a évolué Harry depuis qu'il est né. Enfin, moi, j'ai vraiment réalisé que, en fait, c'était juste un petit garçon hyper maltraité. Et je trouve que quand t'es
petit... Ah,
mais
en fait, c'est horrible!
Quand t'es petit, t'es un peu anesthésié, je trouve, à la souffrance des autres enfants, parce qu'en fait, c'est entre Oliver Twist, Mathilda, en fait, c'est que des histoires d'enfants.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires
maltraitées,
dramatiques.
Abandonnées, et en plus, où les adultes sont leur principal problème et ne veulent pas être la solution. Enfin, bref. Tout ça pour dire que Harry Potter, c'est super, mais pas J.K. Rowling.
Autre roman. Connu dans la grâce à son adaptation en film, c'est Le Château de Hurle, dont vous connaissez peut-être pas le titre comme ça, mais c'est le livre qui a inspiré Le Château ambulant de Miyazaki.
Ah.
Et donc okay. Le roman, Le Château de Hurle, c'est un roman de Diana Wynne Jones qui a écrit plein de livres jeunesse de fantasy aussi. Et donc, qui raconte l'histoire de Sophie, qui est une jeune fille qui fait des chapeaux, et qui est chapelière donc, et qui un jour va aller voir sa sœur, qui travaille dans une pâtisserie, et sur le chemin, elle rencontre un très beau jeune homme. Et le lendemain, quand elle est dans sa chapellerie, il y a une sorcière qui vient la voir, et qui lui lance un sort qui fait qu'elle a l'apparence d'une vieille dame. Elle vieillit d'un coup.
Pas cool.
Et donc du coup, elle va essayer de retrouver le jeune homme qu'elle avait croisé et qui fait qu'elle a reçu la malédiction de la sorcière. Parce qu'elle découvre que ce jeune homme est un magicien très puissant. J'en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé lire le livre parce que c'est pas tout à fait la même histoire, il y a quelques éléments en plus que par rapport au film. Par exemple, le fait que Sophie ait des sœurs dans le film. Je crois peut-être qu'au début on les voit, ou elles passent que pour des collègues. Bon, enfin, elles font pas du tout partie de l'histoire, alors qu'elles font beaucoup partie de l'histoire dans le livre. Enfin, il y a des personnages en plus dans le livre qu'il n'y a pas dans le film. Et aussi, ce que j'ai trouvé, c'est que le film est très... très fantastique, avec toute cette magie, toutes ces couleurs. Alors que le livre, je l'ai trouvé très, très réconfortant. C'est la petite histoire entre des personnages auxquels on s'attache et qui sont trop mignons. Et la sorcière, elle fait pas tellement peur. Et du coup, c'est vraiment Le livre que tu as plaisir à lire avec une bonne tasse de boisson chaude de ton choix, parce que je ne veux pas faire de débat entre café, chocolat et thé. Et c'est vraiment une lecture, une super lecture, surtout pour ce personnage de sorcière original. Et puis si on a aimé le film, c'est sûr qu'on aimera le livre.
Bah, ça m'a vraiment beaucoup donné envie de le lire et ça m'a donné aussi envie de l'offrir à ma nièce. Donc,
Ah.
merci.
Et attention, on tombe très facilement amoureux du magicien.
Oh
Alors
non!
que, bah, déjà, le film, clairement, aide pas du tout parce qu'on tombe très
Ouais.
facilement amoureux. Et dans le livre,
Il a trop un look
c'est
de
vraiment
rockstar.
un, je veux pas dire de gros mots, mais il a vraiment un caractère très désagréable. Mais tu sens qu'il y a un bon fond derrière. Tu sens qu'il y a un bon fond
Mais
derrière et
il
le
a quand même un
caractère
caractère
désagréable, il.
désagréable.
Le caractère désagréable, au fur et à mesure, ils font face à Sophie, qui est hilarante comme personnage, parce que c'est une jeune fille qui devient vieille, et je m'identifie beaucoup à ce personnage, parce que moi, je suis une vieille personne dans le corps d'une jeune. Et donc, elle se plaint, elle a mal au dos, et c'est compliqué. Et puis, elle en a marre, il le saoule.
Girl, same.
Voilà, j'aime bien les personnages de vieilles femmes. Et nos dernières combos de dernières recommandations.
Ouais,
Ça fait combien de
ça
temps?
me
Deux
fait un
heures?
peu plus. Je
Ça
sais
fait
pas.
2 heures qu'on recommande des livres.
J'ai mal à la tête.
C'est la fin. C'est deux livres du même auteur, mais qui ont des sorcières complètement opposées. C'est donc deux livres de Roald Dahl. Il y a Mathilda et il y a Sacrée Sorcière.
On commence par Mathilda, parce qu'on l'a toutes les deux lue. Moi, j'ai lu que Le Sacré Sorcière adapté par Pénélope Bagieu.
En BD, ouais. Et du coup, donc Mathilda, ça va être l'histoire de la gentille sorcière, où c'est encore une fois l'histoire de pauvre petite fille qui a des parents qui ne sont pas du tout comme elle. Elle aime les livres, elle aime l'école, elle est très intelligente, alors que ses parents, ils aiment la télé, ils sont stupides et ils aiment
Mais
l'argent.
surtout, ils sont méchants, parce qu'à la limite, ils pourraient
Et
ne
ils
pas
sont
aimer la même chose,
méchants.
mais ils sont méchants!
Ils sont méchants avec elle parce qu'ils comprennent pas pourquoi elle veut pas juste
Ouais.
regarder la télé et
Du
arrêter
coup,
de
ils la
lire des mots.
méprisent et tout. Alors, ils ne font même pas de câlin et tout.
Et cette petite fille va découvrir qu'elle
Non.
a des pouvoirs.
Eh ouais, elle est trop balèze. Et moi, je me rappelle que ce livre, je l'avais jamais lu, et j'avais d'ailleurs pas vu le film.
Ah
J'ai
ouais?
lu le livre parce que tu me l'as offert pour Noël. Et ensuite, j'ai vu le film. Quand j'étais vraiment en retard.
Quand j'étais petite, on regardait énormément le film. Et Roald Dahl, on les a tous lus quand on était petite. Et je les. C'est pareil, c'est des livres qui se trouvent très facilement d'occasion parce que c'est des gros classiques populaires à raison de la littérature jeunesse.
Ou dans les même dans les bibliothèques de votre ville, ils y sont forcément dans la section enfants, c'est sûr.
Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une autre amie qui a lu il n'y a pas longtemps Mathilda suite à mes conseils et qui était très contente parce qu'elle l'avait jamais lu et qu'elle a dit oh, le livre est vraiment super. Donc même pour les adultes, c'est super à lire. Et du coup, l'autre qu'on a mis en parallèle, c'est Sacrée Sorcière parce que c'est le même auteur, mais cette fois, les sorcières, elles sont méchantes. Et donc, c'est un petit garçon qui est élevé par sa grand-mère suite au décès de ses parents. Encore une fois, très fun.
Mais les
Et
parents
sa
n'ont pas le droit
grand-mère lui
d'exister
dit.
dans les histoires. Les parents, c'est pas fun.
Et sa grand-mère le met en garde contre les sorcières, qui sont donc des femmes qui ressemblent à vous et moi, mais qui ont certaines caractéristiques qu'elle lui décrit pour apprendre à les reconnaître, parce qu'elles sont dangereuses, parce qu'elles veulent tuer les petits-enfants. Et évidemment, ce petit garçon va rencontrer des sorcières. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Et donc, comme je
Juste
disais, ça a
après,
été adapté il y a peu, avec un gros succès en BD par Pénélope Bagieu, qui d'ailleurs, j'adore la grand-mère qu'elle a fait dans la BD.
oui,
Grand-mère avec les
meilleur
cheveux
personnage.
roses et des gros manteaux de fourrure, trop cool.
Il y a un petit côté grand-mère Yetta dans Une nounou d'enfer, si vous connaissez la série.
Voilà!
Tada!
Tada! On va vous laisser parce que ça fait 2 heures et que même nous, on trouve que c'est long, 2 heures, même si on
Il
aime
faut qu'on
parler
aille aux
des livres.
toilettes et tout.
Ouais. Ben, merci si vous avez tenu les 2 heures. Si vous n'avez pas tenu les 2 heures, on vous comprend. Mais de toute façon, vous ne nous écoutez pas à ce moment-là, donc.
J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir de nouveaux livres et que ça vous aura aussi donné envie de nous dire ceux que vous aimez bien et qu'on n'a pas cités, nous donner votre avis.
N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour ne pas rater nos épisodes mensuels.
Ah oui.
Et comme d'habitude, on termine en remerciant Moon & Sun pour la musique.
Et Craig, notre ingé son.
N'oubliez pas de rester magique.
Magique.